Je voudrais moi aussi poser des questions. Et en poser à vous, et en poser à moi-même. Est-ce qu'on a quelque chose à se dire? Alors bien sûr, ça va mal chez vous, mais ça va très mal aussi chez moi. Et c'est pas seulement ça qu'on aurait à se dire.
Vous venez d'écouter la voix de Gilles Deleuze. Cette voix de Gilles Deleuze, pour discuter avec Adnan Jdeh, avec nous par Skype, à propos de la publication sous sa direction de Gilles Deleuze, La logique du sensible, esthétique et clinique, ouvrage publié aux éditions de l'Incidence Éditeur. Ouvrage dans lequel on peut notamment lire un texte jusque-là inédit en sa version française de Gilles Deleuze. Il s'agit de la préface à l'édition anglaise de Francis Bacon, Logique de la sensation. Alors, Adnan Jdeh, j'espère que vous m'entendez bien par Skype.
Oui, parfaitement.
Je précise que vous êtes chercheur en esthétique et philosophie contemporaine à l'université de Tunis 1 et que vous avez coordonné plusieurs ouvrages, hein, dont un ouvrage sur Derrida, un ouvrage sur Merleau-Ponty, et qu'on vous doit aussi tout de même la traduction de Deleuze en arabe, quelques textes, hein, j'imagine.
Tout à fait, le Proust, Proust et les signes, Kafka pour une littérature mineure et sa présentation de Serge Hermazoche.
L'ouvrage que vous avez dirigé s'intitule Gilles Deleuze, La logique du sensible. Aussi, ma première question serait de comment comprendre ces deux termes qui ont l'air un peu contradictoires ou en tension, logique d'un côté et sensible de l'autre.
Oui, j'aimerais d'abord vous remercier pour cet entretien à l'occasion de l'apparition de cet ouvrage collectif. J'aimerais également préciser que le choix du titre s'est fait en fonction des deux ouvrages que Deleuze avait déjà publiés en 69, avec sa logique de la sensation d'abord, et avec l'ouvrage qu'il a consacré en 91 à Francis Bacon, sous le titre de Logique de la sensation. Le choix d'une logique du sensible chez Deleuze renvoie précisément à la forme de cohérence qu'il faudrait creuser dans ses études consacrées à l'art. Logique ne renvoie pas chez Deleuze à une discipline formelle, mais elle désigne plus particulièrement la manière dont il faut creuser le procédé d'un artiste ou le mécanisme de production d'un sens ou d'un affect. Quant au choix du second terme, à savoir le sensible, cela désigne chez Deleuze effectivement la matière première de l'être, du devenir, mais cela aussi a un autre sens puisque sensible désigne les intensités, hein, les intensités qui forment, qui constituent ce monde où nous vivons, et qui ont un rapport tout à fait, disons, plastique avec nos manières de percevoir et d'éprouver. Donc la conjonction entre cette logique et le sensible chez Deleuze aura peut-être le mérite de désigner le propre fonctionnement, la manière dont le sensible lui-même se produit et produit des affects, l'œuvre d'art aura par définition la fonction d'enregistrer ou de faire durer.
Le sous-titre de l'ouvrage s'intitule « Esthétique et clinique ». Là encore, de rapprocher ainsi deux termes, « esthétique et clinique », là aussi, comment l'entendre ?
Voilà, esthétique et clinique, et c'est en même temps de joindre les deux bouts de la chaîne, si on peut dire, puisque une grande part des travaux que Deleuze avait consacré aux arts visuels et littéraires se comprend dans une logique, disons, systématique, où le nom esthétique désigne la théorie de l'art, la manière dont la philosophie ont-on interrogé l'art. Clinique, cela correspond plus particulièrement à la manière dont Deleuze, dans les 10 dernières années de sa vie, a voulu traiter l'interférence entre la production de l'affect, la production du percept et la question de la santé propre à l'artiste, c'est-à-dire cette manière d'intensifier davantage nos pouvoirs d'éprouver, nos pouvoirs de sentir qui sont absolument essentiels dans la perception des œuvres d'art.
Alors là, vous venez d'employer le mot de percept et le mot de concept. Oui. C'est deux différences, concept-percept. Est-ce que c'est là aussi une manière de différencier, non, la fonction de la philosophie, qui est celle de former les concepts d'un côté, et puis la fonction de l'art, qui est celle de faire des percepts? C'est un peu comme cela que Gilles Deleuze l'entend?
Absolument, tout à fait. Dans son ouvrage avec Félix Guattari, intitulé « Qu'est-ce que la philosophie ?», publié en 1991, Deleuze avait justement souligné la différence entre l'activité proprement philosophique, qui consiste à créer des concepts selon une nécessité toute particulière. L'activité philosophique n'est donc pas gratuite. En même temps qu'il a réservé à l'art la fonction de produire des affects, des percepts, des blocs de sensation que l'artiste s'efforce également de faire durer dans et par le matériau dont il use. Que ce soit donc avec Bacon, dont il a déjà esquissé les grandes lignes dans sa logique de l'association, ou bien avec déjà Proust, ou ultérieurement avec le très beau recueil d'articles critiques et cliniques, Deleuze avait toujours pour enjeu d'articuler d'une part le segment esthétique et la lignée clinique dans laquelle se situe l'activité de l'artiste, mais aussi d'insister sur l'enjeu proprement éthique, vital, de cette production d'affects et de percepts.
Alors l'ouvrage se compose en quatre grands chapitres, hein, avec des contributions importantes, hein, Véronique Bergen, Anne Sauvagnargues, Éric Alliès, vous-même vous avez contribué, hein, il y en a beaucoup d'autres. Quatre chapitres donc, individuation esthétique, image, ritournelle, cartographie clinique. Peut-être déployer deux termes, celle de individuation esthétique, comment l'entendre, et puis dans un deuxième temps, ritournelle aussi.
Pour les textes de la première partie, sous le titre générique « Individuation esthétique », il faut entendre ça, d'abord en insistant sur le rapport constant chez Deleuze d'une théorie de l'individuation, c'est-à-dire une théorie de la naissance de l'individu, que ce soit une œuvre d'art, une personne ou simplement une subjectivité impersonnelle qui ne prend pas nécessairement la forme organique d'un être humain. Ça peut surtout se consolider au contact des devenirs inhumains, des devenirs animaux chez les êtres, et en même temps en insistant d'autre part sur la théorie de l'art qui forme chez Deleuze un terrain propice pour l'examen de cette théorie de l'individuation. C'est-à-dire, pour Deleuze, les arts ont souvent constitué un terrain positif pour toutes sortes d'expérimentations que requiert la naissance simultanée de l'individu et du champ dans lequel il est par avance pris, à savoir son champ d'individuation.
C'est jamais l'individu tout seul, isolé d'un côté, ou le collectif. Absolument. Tout seul d'un côté, quoi.
Absolument.
Ritournelle ?
Et ritournelle, cela renvoie évidemment au chapitre tout à fait magnifique de Mille Plateaux, où Deleuze, avec Guattari, envisage une forme de subjectivation, si l'on veut, une forme d'individuation par mouvement entre territoires. Et Ritournel, cela désigne le cadrage, les coordonnées que requiert une telle individuation. Le terme, d'abord, est de nature musicale, mais pour Deleuze, cela gagne à être entendu en un sens proprement éthologique, c'est-à-dire en un sens qui a trait à tout ce qui concerne les milieux d'individuation, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les êtres humains, que ce soit pour les sociétés, mais aussi pour les activités de production artistique et esthétique.
Sur ce texte inédit de Gilles Deleuze, on le disait, c'est une préface à l'édition anglaise de son Francis Bacon, Logique de la sensation, un texte donc qui n'avait pas jusqu'à présent été traduit en français. On peut y voir Gilles Deleuze présentant de manière assez rapide ce qu'il voit, enfin comment il perçoit justement Francis Bacon. Il parle d'une peinture d'une violence très spéciale. Je le cite, à une violence de la couleur et du trait, la violence d'une sensation et non plus d'une représentation. Il parle d'une violence d'expression. J'aimerais peut-être non qu'on déplie ce travail de Gilles Deleuze non sur autour de la peinture de Francis Bacon.
Concernant d'abord ce texte et le statut de ce texte dans la bibliographie de Deleuze, j'aimerais d'abord dire deux petits mots parce que ce texte a une histoire un peu étrange puisque cela fait quatre années que ce texte que je suis à la recherche de ce texte. Bon, dans sa bibliographie, la bibliographie générale des textes de Deleuze qu'on doit à Timothy Murphy, Revised Bibliography of the Works of Gilles Deleuze. Ce texte est répertorié et certes, il a fait l'objet d'une première publication sans titre en 1984 dans une traduction anglaise assurée par Lisa Liebman pour la revue Arthur Room, le numéro de janvier 1984. Mais depuis, l'original français du texte est perdu. Ni la traductrice américaine n'en a gardé une copie, ni aussi Daniel Smith, qui a assuré la traduction anglaise de La logique de la sensation, qui fut publiée en 2003, avec l'autorisation évidemment de Deleuze, accordée depuis 1992. Donc cela fait 4 ans que nous sommes à la recherche de l'original de ce texte, qui finalement ne s'est pas garé, grâce au concours de notre ami Richard Penas et également à Madame Fanny Deleuze. Nous avons pu mettre la main sur ce texte qui, à la différence de quelques autres articles et préfaces, n'a pas été inclus dans le second volume posthume des publications de la période 75-95 dans deux régimes de fou et autres textes, les textes réunis évidemment par Deleuze ou par David Lapoujade chez Minuit en 2003.
D'ailleurs, le texte manuscrit est reproduit dans cet ouvrage Logique du sensible, Gilles Deleuze.
Tout à fait, c'est une manière de refaire entendre la voix de Deleuze, puisqu'il est connu que Deleuze ne conserve que très rarement les tapuscrits de ses ouvrages. Et fort heureusement, nous avons pu retrouver donc l'original français de ce texte. Et voilà, nous sommes très heureux avec Robert Bonavi d'avoir pu redonner au lecteur la possibilité de lire Deleuze dans le texte.
Peut-être avant de nous quitter, donc cette lecture de que fait Gilles Deleuze sur la peinture de Bacon.
Voilà, c'est une lecture en fait intensive puisque Deleuze insiste encore une fois sur la spécificité de cette peinture. Qui ne peint pas, dit-il, l'horreur, qui ne peint pas des sentiments simplement de violence, mais elle peint l'intensité même de la violence. Il s'agit d'une peinture figurale et non pas figurative, terme qu'il emprunte et qu'il réactive à la suite de Léotard pour désigner justement le mécanisme de production d'affect qui ne soit pas embrigadé par les mécanismes de représentation ou de narration ou de mimétisme.
Adned, je vous remercie d'avoir accepté ce court entretien, d'être revenu donc sur la publication de cet ouvrage, puis également d'avoir parlé un petit peu avec nous sur ce texte inédit de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, La logique du sensible, c'est un ouvrage publié, donc je le disais, aux éditions de l'Incidence éditeur. Adned Jdeh, merci beaucoup.
Merci à vous. Have you not heard of that madman who lit a lantern in the bright morning hours, ran to the marketplace and cried incessantly, I'm looking for God, I'm looking for God. As many of those who did not believe in God were standing together there, he excited considerable laughter. Have you lost him then, said one. Did he lose his way like a child, said another. Or is he hiding? Is he afraid of us? Has he gone on a voyage or emigrated? Thus they shouted and laughed him to scorn. But the madman sprang into their midst and pierced them with his glances. Where is God, he cried. I'll tell you, we have killed him, you and I. We are all his murderers. But how have we done this? How were we able to drink up the sea? Who gave us a sponge to wipe away the entire horizon? What did we do when we unchained this earth from its sun? Whither is it moving now? Whither are we moving now? Away from all suns, maybe? Are we not perpetually falling backwards and forwards, sidewards and in all directions? Is there any up or down left? Are we not straying through an infinite nothing? Do we not feel the breath of empty space? Has it not become colder? Is not more and more night coming on us all the time? Must not lanterns be lit in the morning? Do we not hear anything yet of the noise of the grave diggers who are burying God? Do we not smell anything yet of God's decomposition? God's decomposed too, you know, and God is dead. He remains dead and we have killed him. Now, how shall we, the murderer of all murderers, compose ourselves? That which was holiest and mightiest of all that the world has ever possessed has bled to death under our knives. Who will wipe this blood from us? With what water can we purify ourselves? What festivals of atonement, what sacred games will we need to invent? Is not this the greatest of deeds too great for us to handle? Must not we ourselves become God? Simply to seem worthy of it. There has never been a greater deed, you know, and whoever shall be born after us for the sake of this deed shall be part of a higher history than all history hitherto. Here the madman fell silent and again regarded his listeners. They too were silent and they stared at him in astonishment. At last he threw his lantern to the ground and it broke and went out. Come too early. My time has not yet come. This tremendous event is still on its way, still traveling, and it has not yet reached the ears of men. Lightning and thunder require time. The light of the stars requires time. Deeds require time even after they've done before they can be seen and heard. This deed is still more distant from them than the distant stars, and yet they have done it themselves. It has been related further that on the same day this madman entered diverse churches and there sang a requiem, Aeternum Deo. Led out and quieted, he is said to have retorted each time, what are these churches now if they are not the tombs and sepulchres of a dead God? We have killed him.